Mémoire des républicains espagnols en Languedoc-Roussillon. Témoignage d'exil de trois générations. Une série documentaire coproduite par la Fédération des radios associatives et la région Languedoc-Roussillon.
Républicain exilé en France en 1939, Arthur Kerry Escorriguel s'engage comme sous-officier la même année dans l'armée française en guerre contre l'Allemagne. Après l'armistice, en 1940, il est livré aux Allemands pour travailler à la construction du mur de l'Atlantique.
Un jour, ils arrivent les gendarmes, ils nous disent, écoutez, on regrette, mais les Allemands exigent de la main d'œuvre et tout ça, et on est obligé de boudonner aux Allemands. On insultait nos officiers et tout ça, mais il n'y avait rien à faire. Et comme on n'avait pas de vêtements civils, bon, on enlevait nos ceintures militaires, tout ça, mais il y avait un militaire français, on nous a mis au pas de l'anglais, où c'était presque la ligne de démarcation, et deux jours après sont venus les Allemands. C'est la première fois que je voyais la croix gammée de près et les uniformes allemands. Nous sommes mis dans les trains et de là, ils nous ont amenés au Camp Tot. Et l'arrivée du Camp Tot, c'est quelque chose d'épouvantable.
En 1941, Hitler donne l'ordre de construire le mur de l'Atlantique dans le but d'empêcher un débarquement des Alliés. Il charge l'ingénieur Todd et son organisation de sa réalisation. En France, le mur de l'Atlantique s'étend des côtes basques à la Belgique. C'est une succession de bases sous-marines, de bunkers renforcés par des rampes de lancement de missiles et de plages minées. Cette construction colossale nécessite une main-d'œuvre considérable.
Il faisait la base sous-marine, je crois que pour 10 unités de sous-marins, avec des murs de béton terribles. Les toits pour faire face au bombardement, je crois qu'il avait de 8 à 10 mètres d'épaisseur, avec des voies de chemin de fer et tout ça. Et je vis passer les Espagnols qui étaient là, ils tiraient à des charrettes où on leur jetait le béton. Et les pauvres, ils avaient même dans les sourcils des bétons qui pendaient les cheveux. Et nous, quand on est arrivé, on a dit, on ne fera jamais ça, nous. Moi, c'était des esclaves, mais c'était quelque chose d'épouvantable, vous savez. Bon, alors, ils nous ont mis en formation et ils demandaient des métiers. Et un de mes amis, il était boulanger en Espagne, un autre était instituteur au ciment. Bon. Et nous, on était les derniers avec Antoine, qui en Espagne, il était graphiste, et puis moi, que je faisais des aquarelles. On a demandé des métiers, puis on a dit, bon, moi j'ai dit peintre en bâtiment. Hein. En Espagne, qu'est-ce que vous faisiez peindre? Mon copain aussi. Bon, après, l'Allemand nous a mis à part, les groupes de peintres, et il passe encore à notre chef, il dit, si un de vous ment, ça sera pire, hein, ça sera disciplinaire. Alors moi j'ai dit à mes copains, écoutez, je ne suis pas peintre en bâtiment, je fais de tableaux. Mais ne te préoccupe pas, on va t'aider, bon. Et vous savez ce que c'était être peintre? Bon, heureusement qu'on nous mettait par couple avec une pompe à pression. Et il y en avait un qui pompait, qui était peintre aussi, qui pompait, et l'autre avec un grand tube qui faisait les camouflages des baraques des officiers et des marins. Parce que sur ça, il y avait un toit de treillis. Vous savez, comme il y a pour les poules, il y avait de l'herbe, donc les avions ne voyaient pas les baraques. Ils émettaient un paysage avec de... Et nous, on était dessous. C'était ça, être peintre. Après, on nous a séparés. Et puis moi, j'ai pompé. Et c'était un Allemand qui faisait la peinture. Et chaque fois, on se faisait engueuler. Là, j'ai commencé déjà par réunir l'Allemand. Parce que, bon, on n'était qu'avec eux. Et On se faisait engueuler toujours par les chefs, parce que ça c'est vrai, ces pauvres Allemands, ils mettaient la couleur jaune qui se mélangeait avec la verte, bon, et puis ils nous traitaient de cochons. Et alors un jour, moi qui pompais, j'en avais marre, je lui ai dit, mais écoutez, cochon, moi je ne fais que pomper. Il me regarde, il dit, pourquoi tu fais les miens? Ah, je dis, oui, moi je... Bah, et alors il m'a fait faire un projet, et il a trouvé que c'était bien. J'ai dit, il y a des bois, on peut faire ça plus adapté. Mais il m'a changé tout, parce qu'il dit, espionnage anglais, on ne sait jamais, il faut se méfier des républicains. Bon. Et il a dit à l'Allemand de pomper. Et il s'est mis au garde-boue, bon, il s'est mis à pomper. Mais il a pompé que des jours. Au bout de deux jours, il avait un moteur. Et tant que moi je peignais, il était assis. Mais alors là, j'ai eu des choses invraisemblables, c'est une chance que je sois vivant. Une fois, j'ai camouflé la base sous-marine et les Anglais ont bombardé. Les bombes étaient autour de moi et moi j'étais suspendu au côté du mur, près du toit. Ils étaient des bombes dans les toits. Et quand je suis descendu, je voulais tuer l'Allemand qui ne m'avait pas fait descendre. Mais bon, une fois, on m'a fait camoufler des dépôts de sous-marins qui rentraient dans la mer, et là aussi on a été bombardé par les Anglais. On avait peur parce que c'était pas ma guerre, parce que je défendais rien en Espagne, je les encaissais, bon, mais là c'était, par exemple, on avait des cabinets collectifs, des chiottes qu'on appelait, on était 50 à faire caca, vous voyez, et bon, un jour une bombe est tombée là, il a tué une centaine d'Espagnols, qui étaient tous les pauvres aux toilettes. Bon, il y avait des morts tous les jours. Et ça c'était les vrais, parce qu'ils bombardaient la base et les camps. Des fois, après ces bombardements, bon, on travaillait toute la journée, bon, moi avec ma fameuse peinture, hein, et les autres pauvres avec les ciments. Et on allait au lit, mettre un verre, et à 11h, on nous réveillait pour travailler encore. C'est-à-dire, ce n'était pas 35 heures, des fois on faisait 60 heures, et on n'avait pas le droit de... On était des esclaves, mais vraiment sans aucun. Cet Allemand qui nous commandait, dans sa vie privée, était peintre en bâtiment. Il était chef d'une entreprise de peintre, donc j'ai l'impression que lui, ce qui l'intéressait, c'est qu'on fasse du bon boulot. Vous savez, bon. Mais il était toujours au garde-boue devant les militaires, les marins, parce qu'on était entouré que de militaires. Hein, bon. Il y avait même dans les cantons, à un moment donné, ils avaient mis des filles de prostituées qui venaient de l'Est. Et moi, je n'ai jamais été. Hein. Là, c'était, et les, ceux qui étaient internés, ils gagnaient des bons avec, en faisant plus d'air qu'ils pouvaient aller avec ces filles. Moi, ça me révoltait, ça. On n'en a pas parlé, mais c'était honteux de voir ces mecs. Pff, moi, j'en avais honte. C'est pas, ces filles me faisaient la peine. Elles étaient peut-être des prostituées chez elles, mais qu'est-ce qu'elles faisaient dans les camps avec tous ces mecs? Nous, on était pour dire qu'il faut respecter la femme. Oh, ils s'en foutaient. Hein. C'était déjà malheureux. Hein. Oh, les Allemands, ils savaient comment tenir les gens, mais...
L'organisation TOD est une sorte de ponts et chaussées paramilitaires chargée de la construction des infrastructures militaires, routes, ponts, bunkers, bases sous-marines. C'est une organisation parallèle à la Wehrmacht qu'elle suit et qu'elle doit servir. C'est plus qu'une entreprise civile, plus qu'un employeur de main-d'œuvre. Elle a joué un rôle dans l'entreprise nazie de destruction de l'être humain. Arthur Kerry-Escorigel s'évade. Il finit par être repris avec son copain Antoine.
Alors là, on n'a pas été arrêté par les Français, c'est directement les Allemands. Nous ont menés à la caserne. Et alors là, la caserne, j'ai eu déjà... Il y avait un grand hôpital et j'ai déjà eu une intervention médicale que je n'ai jamais compris. Il y avait des Juifs, c'était horrible. Et un beau jour, ils nous disent, ils viennent nous chercher, Mais moi, j'avais une fiche spéciale. Hein. Déjà, nous avait, on devait être une soixantaine. Et sur trois, on avait une autre fiche. Sur notre groupe sanguin, je ne sais pas. Bon. À côté de moi, il y avait des Juifs. Et les Juifs m'ont dit, même si vous êtes malade, si vous avez, ne vous laissez pas qu'ils vous amènent à l'infirmerie et tout ça. Mais je ne pouvais pas l'éviter. Et de là, ils nous ont enchaînés. Et on a traversé Paris à pied jusqu'à la gare. Moi, je croyais qu'ils nous envoyaient en Espagne. Enchaîné, à traverser Paris à pied. Je ne sais pas si vous voyez le panorama d'Anne Évadé. Et je voyais que les gens nous regardaient avec peine. Et alors, on nous monte dans les trains, on nous enlève les chaînes, mais les wagons surveillés par... Et puis, à ma grande joie, je vois qu'on arrive à la base sous-marine dont je m'étais évadé finalement. Ce n'était pas l'Espagne de Franco. À la base sous-marine, on est reçu déjà par des fusiliers marins qui nous mettent en prison. Ils cherchaient que si on avait saboté, que si on était dans la résistance. Et moi, bon, le fait de m'évader, ben, c'était grave pour eux. Hein, mais j'avais pas, c'est vrai, jamais eu l'idée de saboter du matériel. Hein. D'ailleurs, je pouvais saboter comme ma pompe de peinture. Il n'y avait pas beaucoup de matériel à saboter. Et alors là, j'étais jugé par un tribunal vraiment militaire, un jugement militaire, parce qu'on dépendait de l'organisation toute militaire. C'est-à-dire, c'était des militaires, ils étaient en uniforme. Bon. Et puis après, de la marine, puisque c'était la base sous-marine, c'est qui contrôlait. Alors moi, j'étais condamné à 3 mois de prison incommuniquée, de prison disciplinaire, après dans les camps disciplinaires, et après ils devaient m'envoyer à l'île de Cherbourg, qui était considérée front, parce que les Anglais, bon. Celui qui était mon responsable, il était dans la... quand on m'a jugé. Et il a dit, le pauvre, il a dit, vous savez, quand il aurait fait ces 3 mois, je le reprends. Et le chef du tribunal, que c'était un commandant de marine, lui a dit, vous ne le verrez plus, ces gars. Donc, je savais que pour moi, c'était fini. Vous voyez donc que j'allais payer ça très, très, très fort. Et puis, donc, j'ai fait mes 3 mois de... Mais, vous savez, il faut dire la vérité, que j'avais rien, pas un papier, rien, j'avais que la fenêtre. 3 mois comme ça, il est arrivé un moment où je ne savais pas qui j'étais. Ils arrivent à bout de fer moralement. Hein. Ils me disaient, tu vois, tu t'es évadé, t'as fait une connerie. Bon. Et puis, finalement, tu t'es engagé dans l'armée française, alors que tu sais que les Français ne vous aiment pas. C'est eux qui t'ont donné aux Allemands. Bon, mais ça, ça prenait pas pour moi. Parce que eux non plus ne s'aimaient pas, puisque j'étais en prison. Ça. Tant que je pouvais. Mais à la fin, je réfléchissais plus. J'étais perdu. Dans ma cellule, j'avais mis K dans les murs. Hein. Terrible, terrible. Je crois même que. Je comprends les gens qui ont la foi. Je disais, qui c'est qui peut me sauver? Personne, même ma famille, personne ne savait où j'étais. Je ne sais même pas s'ils faisaient des figes. Hein. Parce que là, les gens qui étaient dans la baignoire à haut de ma cellule, que j'entendais les cris, eh bien, ils les mettaient dans la cellule, dans cette prison, ils mettaient de l'eau, il fallait qu'ils la vident en pédalant, et s'ils n'arrivaient pas, ils mourraient noyés, et ils partaient le lendemain sans bruit. C'était près de la Palisse, c'était en dehors de La Rochelle. Hein, Gilberta, le cercle Clarisse.
Oh, c'était à La Rochelle.
C'était à La Rochelle.
Ah, oui, c'était dans la ville.
La Rochelle, parce qu'elle ne s'en rappelle plus que moi.
Oui, parce qu'on y a été. Hein.
Avec ma femme et mon petit-fils, ils ont voulu voir la prison, qui était tenue par des serfs. Hein, Et je me rappelle qu'elle pleurait les sœurs. Et elle m'a dit, écoutez, on va prier pour les victimes. Et après, une sœur dit, maintenant on va prier pour les bourreaux. J'ai dit, écoutez, je n'ai pas la force de prier pour les bourreaux, priez-vous. C'est vrai, ils sont peut-être à plaindre aussi les bourreaux, parce qu'ils ne font pas les biens. Ça, c'est des souvenirs qui me restent, mais ça, je l'ai gardé pour moi. Je n'ai jamais voulu revendiquer quoi que ce soit. Pourquoi ? À quoi bon ? Un jour, ils viennent à nouveau me chercher la police militaire et ils me mettent dans la cam disciplinaire. On nous faisait marcher 4 heures autour d'un Allemand, avec une jambe. On levait l'autre jambe et tous les quarts d'heure, 20 minutes, c'était à lui de juger, on pouvait nous reposer un peu et recommencer, changer de jambe. Oui, comme ça, sauter. Et de là, un jour, ils me disent, vous partez à Nuremberg. Et là, Nuremberg, je ne viens pas me parler. Hein. Non, parce que c'est... Et à Nuremberg, c'est plus rien, parce que j'ai suivi un traitement et j'étais optimiste. Ben oui, parce que quand on m'a opéré tout ça, les Allemands, je croyais qu'ils me soignaient. Alors, ils me donnaient des piqûres, tout ça. Mais, on peut dire, hein, à mon avis, c'était des somnifères, des choses qui nous faisaient changer. Hein. En tout cas, ça, c'est des criminels. Hein. On ne fait pas ça, des jeunes. On n'a pas le droit de toucher le corps humain au nom de la race.
Au total, on avance le chiffre d'1 million de travailleurs pour la construction du mur de l'Atlantique, du sud de la France à la Norvège. En France, en 1944, l'organisation Todt exploitait 192 000 travailleurs étrangers, entre 35 et 40 000 étaient espagnols. Mémoire des républicains espagnols en Languedoc-Roussillon, témoignage d'exil de 3 générations, avec Arthur Kerry Escorriguel, témoignage recueilli par Radio Languedoc, musique originale Guillaume Siguron, un documentaire de Gérard Balbastre et Philippe Co, Radio RCF Aude. Mémoire des républicains espagnols, témoignage d'exil de 3 générations, une série documentaire coproduite par la Fédération des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon et la région Languedoc-Roussillon, direction de la culture et du patrimoine.